Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le grand plaisir d'accueillir l'économiste Christian Saint-Étienne pour la parution de son ouvrage, son dernier ouvrage extrêmement récent, La fin de l'euro, qui est paru chez Bourin, 147 pages, 16 euros. Christian Saint-Étienne, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous retrouver. Je précise à nos auditeurs que votre titre n'a pas de point d'interrogation.
Oui, c'est exact.
C'est donc plutôt une affirmation. Alors, on vous connaît de longue date. Vous êtes un universitaire, professeur titulaire de la chaire d'économie industrielle au Conservatoire national des arts et métiers, professeur à Paris Dauphine, membre du Conseil d'analyse économique. Vous êtes président de l'Institut France Stratégie. Et vous avez bien d'autres titres. Et vous avez été, dans le passé, un brillant lauréat du prix Turgot. Encore bravo. On a l'habitude d'être décoiffé quand vos ouvrages sortent. Le dernier, je crois que c'était il y a 2 ans, si je me souviens bien, « La France est-elle en faillite ?» avait remué le Landerneau. Alors je crois que là, vous êtes parti sur le même chemin. Alors, la fin de l'euro, vous y croyez-vous ?
Je dis que c'est un risque. En fait, je suis un Européen convaincu et moi, je suis favorable à une Europe forte. Mais je trouve justement que l'Europe va à la dérive et que l'euro, qui est un succès technique, néanmoins, en tant que monnaie, une monnaie fragile, puisqu'elle ne s'appuie pas sur un pouvoir politique fort. Dans l'histoire, il n'y a aucun exemple d'un divorce durable entre souveraineté monétaire et souveraineté politique. Et donc, à chaque fois qu'il y a une monnaie forte, il y a un État fort derrière. Le dollar est fort parce qu'il s'appuie sur les États-Unis d'Amérique. Quand on achète le dollar, on achète les États-Unis d'Amérique, la première puissance du monde.
Puissance économique, ouais, c'est ça,
voilà. L'hyperpuissance. Et donc, l'Europe, on achète une monnaie technique, puisqu'il n'y a pas de puissance économique, puisque au contraire, comme je le montre dans le livre, il y a une réflexion sur la zone euro en tant que telle, mais il y a une réflexion sur l'Europe aussi, où je montre que l'Europe, à terme, est menacée parce que... En fait, quand on prend les 27 membres actuels de l'Union européenne, ils ne sont pas dans la même Europe. Vous avez la France et l'Allemagne qui sont dans l'Europe de 57, qui s'étaient mis ensemble pour éviter la répétition des guerres mondiales. Et puis, vous avez au moins 15 pays qui sont entrés dans cette union, comme on entre dans un supermarché, on se sert dans les rayons et si possible, on ne paie pas à la sortie. Donc, vous avez...
Des images toujours fortes.
Et donc, vous avez des conflits d'objectifs très forts à l'intérieur de l'Union européenne. Donc, pour les simplifier, on peut dire qu'il y a ceux qui sont favorables à des États-Unis d'Europe. Si demain on allait vers des États-Unis d'Europe, sur le papier, il faut que ce soit des pays qui aient les mêmes objectifs stratégiques et les mêmes valeurs politiques et culturelles. Donc il y a 7-8 pays qui pourraient s'agréger dans des États-Unis d'Europe. Et puis, il y a un objectif d'une union douanière, économique, environnementale, qui, alors là, pourrait être dans une vision anglaise et même en... comprendre tout le bassin méditerranéen et puis aller à l'ouest, on a inclus tous les pays, mais à l'est, on pourrait inclure jusqu'à l'Ukraine et même, pourquoi pas, un jour la Russie. Donc, pourquoi d'ailleurs je dis ça? C'est parce que moi, j'anticipe qu'à l'horizon 2030-2040, le monde va être structuré par un nouveau duopole entre la Chine et les États-Unis et constitué entre ces deux géants qui, à un moment ou à un autre, vont se menacer, forcément. Il y aura tellement d'antagonisme. Il faut quand même rappeler que la Chine a un budget militaire qui augmente de 12 à 15% par an depuis 15 ans.
Et qu'elle a été une hyperpuissance.
Et qu'elle a été
presque un millénaire avant. Mais
voilà. Et donc, dans ce contexte probable du futur, avoir une zone euro-méditerranéenne d'une cinquantaine de pays rassemblant 1 milliard d'habitants et joignant le blé du bassin parisien à celui de l'Ukraine au pétrole de l'Arabie Saoudite, ça aurait un sens, ça pourrait constituer une zone de stabilisation des conflits au niveau de la planète. Mais on voit bien que ce n'est pas le même projet que des États-Unis d'Europe liant la France, l'Allemagne, le Benelux, l'Espagne à l'Italie. Et donc
on est devant des
si vous voulez, on essaye d'atteindre deux objectifs qui sont chacun indépendamment souhaitables, mais qui sont mutuellement irréconciliables avec un seul instrument qui est l'Union européenne. Donc il va falloir choisir, soit l'Union européenne devient le réceptacle de cette union à 50, ce qui est le plus probable d'ailleurs, et puis il faudrait faire naître une union politique forte dans cette union à 50 pays.
Et alors, selon vous, quel est le ciment qui pourrait faire naître cette union politique, l'axe, on va dire, français-allemand, c'est un début ou pas de cette union politique, puisque ce que vous dites sur la monnaie, hein, je vous cite à quelque chose près, l'euro est une monnaie unique renationalisée et la BCE un système européen de banque centrale nationale, le SEBC. Rien n'est unique, rien n'est totalement intégré. Aussi, tout est en place pour que chaque pays puisse reprendre son indépendance sans heurts.
Oui, si vous revenez à la monnaie que l'euro, pour ceux qui sont en Europe, dans la zone euro, prenez un billet. D'abord, prenez une pièce. Il y a une face nationale.
Absolument.
C'est quand même, il ne faut pas l'oublier. Et puis, prenez un billet. Il y a sur ce billet des lettres clés qui identifient les pays. Vous allez sur Wikipédia qui vous donnera la signification des codes. Or, aujourd'hui, vous avez la lettre clé en Allemagne et vous savez peut-être ou pas qu'en Allemagne, la part du cash, la monnaie échangée entre personnes privées, joue un rôle beaucoup plus important qu'en France. Or, d'ores et déjà, les chefs d'entreprise allemands du Mittelstand qui payent avec des sommes tout à fait significatives en euros demandent la lettre clé allemande. Donc, ce qui oui, laisse supposer qu'un jour ou l'autre, il pourrait y avoir une défiance pour les euros avec des lettres portugaises, irlandaises ou grecques.
Tout à fait. Donc, l'observation que je faisais, c'est qu'on ne peut pas donc trop compter sur uniquement l'euro pour se projeter dans cette union politique.
Voilà.
Donc, il faut passer dans d'autres dimensions, en quelque
Absolument.
Sorte. Qui viendrait conforter peut-être d'ailleurs l'euro,
Absolument.
Par ailleurs.
Parce qu'au fond, nous n'avons pas de pouvoir fédéral politique unifié en Europe. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour consolider l'euro en dehors de ce pouvoir politique intégré? Il faudrait d'abord, au minimum, un gouvernement économique. Ça a été la proposition de Nicolas Sarkozy au mois d'octobre, au plus mauvais moment de la crise financière. Les Allemands ont dit non, d'ailleurs. Donc, d'ailleurs, on reviendra ensuite sur le couple franco-allemand. Il y a beaucoup de problèmes entre la France et l'Allemagne. On les abordera tout à l'heure. Donc, si on prend la zone euro en tant que telle, il faudrait donc néanmoins mettre en place un gouvernement économique. S'il y a des interrogations chez les Allemands sur la nature de ce gouvernement économique, il faut que les Français et les Allemands en parlent. Il faut, si les Allemands pensent qu'on veut faire un gouvernement économique pour faire de l'inflation, ce n'est pas du tout l'objectif des Français, mais si c'est ce que les Allemands pensent, il faut qu'on en parle. Bon, il faut se mettre d'accord sur les objectifs de ce gouvernement économique. Ensuite, il y a un deuxième élément clé qu'on observe bien aux États-Unis. Pour faire fonctionner une zone monétaire intégrée, on a besoin de ce qu'on appelle une composante de fédéralisme fiscal, c'est-à-dire le fait qu'il existe un budget interétatique qui soit significatif. Prenez le cas des États-Unis, le budget fédéral fait au moins 20 points de PIB, et avec un budget fédéral de 20 points de PIB, quand vous avez le Texas qui va bien et le Michigan qui va mal, eh bien, le Texas va payer plus d'impôts fédéraux et recevoir moins de subventions de l'État fédéral. Ça sera l'inverse pour le Michigan. Et donc, vous avez des transferts entre les États par l'intermédiaire de ce budget. Mais ce n'est pas possible en Europe, puisque le budget, entre guillemets, fédéral de l'Europe ne fait qu'un point de PIB. Le troisième point, c'est que, ça touche pas seulement la zone euro, mais l'ensemble de l'Union européenne à 27. On a à l'intérieur de l'Union européenne à 27 une concurrence fiscale et sociale extrêmement violente, qui est d'ailleurs la négation de la soi-disant solidarité politique. C'est pour ça, c'est lié à ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais qu'il y a des pays qui sont rentrés dans un supermarché. Ben, ils considèrent qu'ils ont droit à des subventions, mais qu'ils n'ont aucune obligation en contrepartie. Donc, vous avez par exemple l'Irlande, dont l'essor jusqu'avant la crise a été largement porté par les subventions reçues de l'Europe, et qui, pour remercier l'Europe, avait mis un taux d'impôt sur les sociétés à 12,5, qui a tiré les entreprises sur son territoire. Bon, ben, on ne peut pas avoir une union politique avec de la solidarité et puis de la concurrence fiscale et sociale. Donc, il faut, même si on ne va pas vers une intégration fiscale et sociale, il faut un minimum de solidarité avec des minima fiscaux et sociaux communs à tout le monde.
Mais donner plus de budget, on va dire, à l'Union. Est-ce que c'est bien réaliste dans une période de vaches maigres comme dans laquelle on entre, c'est-à-dire avec un taux de croissance qui probablement va tendre vers le zéro et l'infini?
Donc, effectivement, ça, c'est un projet sur 10 ans. On ne va pas monter de 1 point à 15 points en un an. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ça doit se faire par transfert d'activité. Il ne faut pas que ça se surajoute, parce que ça serait insupportable. Mais par exemple, ça aurait un sens de dire on finance les universités et la recherche au niveau européen, par exemple. Ou on mène des politiques favorables à l'innovation ou au développement de la qualité de l'environnement au niveau européen. Donc progressivement, transférer des pans entiers, voire même un jour l'éducation secondaire. Donc ça doit se faire par substitution et non pas par rajout.
Vous braquez à un moment donné dans votre ouvrage le projecteur sur les risques qui sont latents de difficultés au niveau monétaire dans la mesure où les États-Unis utiliseraient cette stratégie de défense monétaire en laissant glisser très largement le dollar, ce qui, dans le scénario que vous décrivez, qui serait bien entendu un scénario catastrophe, entraînerait des chutes de revenus de 2 à 3% l'an, de 50% des ménages européens exposés à la concurrence internationale, vous faites bien cette nuance, on y reviendra, c'est un chômage à 12%, des déficits publics abyssaux, etc. Et ça, ce scénario-là, vous pensez qu'il est évitable ou on y va tout droit ?
Le problème, c'est que ça nous échappe. Et d'ailleurs, si vous voulez, pour bien comprendre la nature du problème stratégique qui est posé à l'euro, aujourd'hui, quand vous prenez la planète, vous avez 80% des pays qui sont soit dans la zone euro, soit dans la zone dollar. Ils se rattachent soit à l'euro, soit au dollar. Donc la parité euro-dollar est la parité centrale au niveau de la planète. Or, aujourd'hui, il y a deux décisionnaires pour la parité entre l'euro et le dollar. C'est la Réserve fédérale de New York pour compte du Trésor américain. Et puis, c'est le Politburo du Parti communiste chinois qui décide, en fonction de sa politique interne, de soutenir le dollar pour bloquer sa propre monnaie par rapport à son propre taux de change par rapport au dollar. Eh bien, vous voyez qu'il n'y a pas d'Européens autour de la table pour co-décider sur cette parité qui est décisive pour nous. Donc, c'est bien là qu'on voit la limite de la construction de l'euro lui-même. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je dis dans le livre, une des urgences, c'est en application de l'article 111 du traité de Maastricht, mettre en place un gouvernement économique qui, au minimum, est la responsabilité de la politique de change. Et donc, si on arrivait demain à mettre en place une sorte de G3 mondial entre la zone euro, la Chine et les États-Unis, on aurait un élément de coordination de la politique économique mondiale. Mais si ça ne se fait pas, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, les États-Unis sont entrés dans une crise très grave. Pour les États-Unis, le dollar, ça a toujours été un instrument de combat au service de la politique. Ce n'est pas du tout comme en Europe aujourd'hui, l'euro, c'est devenu le veau d'or. Donc, on s'agenouille devant et on n'y touche pas. On laisse même son taux de change être décidé par d'autres. Bon. Donc, pour les États-Unis, ce n'est pas du tout cette politique. Or, les États-Unis, c'est la première puissance du monde, mais ils ont notamment à ce titre des responsabilités. Ils ne peuvent pas, les États-Unis, de leur point de vue, si on lit les grands spécialistes de stratégie économique et politique des États-Unis, même ne serait-ce qu'en lisant la revue Foreign Affairs, on voit bien comment les Américains réfléchissent, ils considèrent qu'ils ont une mission sacrée de gouverner la planète. Bon. Ils ne vont pas pouvoir assurer cette mission qu'ils considèrent comme sacrée avec une économie qui ne redémarre pas. Donc, à un moment donné, si cet automne ou au printemps 2010, vous avez vu l'incroyable montée du chômage aux États-Unis qui est passée au-dessus de 8% en un an et qui pourrait atteindre 10, 11, 12. Bon, il y a un moment donné, ça sera insupportable pour les Américains. Ils ne pourront pas continuer de faire leurs dépenses militaires, ils ne pourront pas continuer de stabiliser la situation en Irak, de mener une guerre en Afghanistan, d'avoir un conflit latent avec la Chine, une Chine qui aurait une progression de son économie de 8 à 10% par an, et eux rester à 0 ou moins 1 par an. Donc à un moment donné, ils peuvent être tentés de laisser chuter le dollar pour refaire partir leur économie. Ça se ferait évidemment au détriment de l'Europe. Et ça veut dire que nous importerions à ce moment-là la crise américaine. On a déjà importé la première crise financière. Et avec le paradoxe que la crise économique en Europe est plus violente qu'aux États-Unis, mais on risque d'avoir un deuxième choc encore, peut-être même plus violent, qui serait un choc monétaire par le taux de change, si les Américains laissaient chuter le dollar. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas très longtemps, on avait un euro à 1,60 $. techniquement, il n'y a rien qui interdit que l'euro soit à 2 dollars dans un an et demi ou deux ans.
Et là, on rentre dans le scénario catastrophe. Vous êtes en
et là, on rentre dans le scénario
l'Allemagne
catastrophe.
L'Allemagne s'en tirait peut-être.
Mais enfin, alors, l'Allemagne, de ce point de vue-là, il faut bien le comprendre, a des besoins sociaux, économico-stratégiques différents de ceux de la France, ne serait-ce que parce qu'elle n'a pas la même dynamique démographique. Pour maintenir la stabilité du taux de chômage en France par rapport à l'Allemagne, il faut un point de croissance de plus sans rien faire d'autre. Donc, au même taux de croissance, le chômage est stabilisé en Allemagne et il croît en France. Se rajoute à cela le fait qu'il y a 10 ans, les Allemands ont fait un choix très fort de compétitivité salariale. C'est d'ailleurs une politique non coopérative à l'intérieur de l'Europe. Ils ont fait le choix d'une guerre commerciale sur la base de la désinflation salariale. Et c'est une guerre qui réussit. Tout le monde admire l'Allemagne, à juste titre, pour ses excédents commerciaux. Très bien. Mais on a l'impression que ces excédents commerciaux sont acquis à la charge de sabre au clair sur les grands marchés à l'exportation en Chine. Non, pas du tout. Plus de la moitié des gains commerciaux de l'Allemagne sur les 10 dernières années dans le monde ont été acquis contre la France et l'Italie. En réalité, par cette politique de désinflation salariale, les Allemands gagnent massivement des parts de marché en France et en Italie. Donc si on passait un euro à 2 dollars, les Allemands ayant une population moins dynamique, donc moins de besoin d'avoir une économie florissante pour employer tout le monde, avec le choix de la désinflation salariale, les Allemands peuvent tenir, peut-être pas très longtemps, mais ils peuvent tenir avec un euro à 1,82 $, c'est l'implosion pour la France et l'Italie. Pour la France, un euro à 2 dollars, ça nous amène à un taux de chômage de 15-16%.
Il n'y a pas d'autre salut que, selon vous, enfin dans le schéma que vous voyez, les scénarios que vous voyez, que par une Europe forte, car personne ne sauvera sa tête tout seul par rapport à ce scénario-là.
Soit on anticipe ce que je viens de dire, c'est un peu l'objet de mon livre, c'est de dire « réveillez-vous avant que la catastrophe arrive ». Et donc, mettez en place des éléments de gouvernement économique et de convergence fiscale et sociale avant la crise. N'attendez pas la crise. La crise va venir. Elle sera là dans un an, dans 18 mois, dans 2 ans, dans 3 ans. Moi, je suis prêt à dire aujourd'hui qu'il y a 90% de chances que la crise que j'anticipe arrive avant 3 ans. Donc, je dis, n'attendez pas la crise. Bougez-vous maintenant. Et si on met en place des éléments de gouvernement économique, ça a des avantages considérables parce qu'à ce moment-là, on consolide la zone euro. À ce moment-là, on peut avoir une politique macroéconomique réellement intégrée au niveau de l'euro, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Chacun fait son budget dans son coin, chacun a ses objectifs de politique fiscale dans son coin. Il n'y a pas de décision, par exemple, de mettre le taux de l'IS à 20% partout, ce qui serait un moyen de favoriser le développement économique de tout le monde. Donc, dans ce contexte, ce livre, je l'ai écrit pour sonner l'alarme.
Mais hélas, ce que l'on voit, ce qui se dessine de la campagne européenne, c'est plutôt le côté atone.
Et c'est l'édredon plutôt que l'alarme.
On ne va pas tout dire à nos auditeurs parce qu'ils vont... Il faut aussi qu'ils aient envie de découvrir votre ouvrage. Je voulais simplement vous poser quelques questions sur l'actualité, et notamment une sur laquelle je suis convaincu que vous allez avoir des réponses très, très originales. C'est sur ce rapport qui vient d'être remis au président de la République sur la répartition de la valeur ajoutée entre les fameux 2/3, 3/3, etc. Donc, il vient d'être remis par monsieur Jean-Louis Cottis. Donc, qui fait apparaître ce que vous disiez déjà dans d'autres conférences, à savoir qu'il n'y a pas globalement eu de déformation sensible de la structure, mais que par contre, à l'intérieur de la masse salariale, et c'est là-dessus que j'aimerais bien vous entendre, notamment de la classe moyenne, il y a eu des contractions ou des divergences fortes. C'est en synthèse, c'est ça.
Alors justement, comme vous l'avez dit, et contrairement aux autres pays, il n'y a pas eu d'augmentation de la part des profits dans la valeur ajoutée en France, contrairement à ce qui s'est effectivement passé aux États-Unis, en Angleterre et en Allemagne, particulièrement en Allemagne et au Japon d'ailleurs. Donc, pas en France. La part des profits dans la valeur ajoutée est restée au même niveau qu'il y a 15 ans. Donc, tous ceux qui disent qu'il y a eu une explosion des profits mentent. Voilà, c'est un mensonge, puisque statistiquement, c'est faux. Alors, le deuxième point, c'est qu'effectivement, la part des salaires, c'est autour de 65% de la valeur ajoutée. Et c'est à l'intérieur de la masse salariale qu'il y a eu quelques déplacements. Alors, il faut bien les comprendre. Et c'est d'ailleurs des déplacements qu'on retrouve au niveau de l'ensemble des revenus pour la totalité de la population. Si on prend d'ailleurs au niveau de l'ensemble des revenus pour la totalité de la population, mais c'est pareil donc pour la masse salariale, c'est le top 1% des salariés ou le top 1% des revenus qui a bénéficié dans la période 2000-2007 avant la crise de 2008 d'une progression des revenus plus rapide que la progression des revenus des autres. Et quand on analyse, j'avais fait ça avec l'INSEE, on avait fait beaucoup de travaux quand j'avais fait un grand rapport sur la fiscalité, une réforme de la fiscalité au Conseil d'analyse économique il y a 2 ans. Et donc, on avait montré en faisant ce rapport qu'il y a une déformation qui ne se fait pas du décile inférieur en faveur du décile supérieur. Parce que quand vous entendez le discours politique, on a l'impression qu'on est allé arracher le pain de la bouche des plus pauvres pour gaver les riches. C'est faux. Les statistiques montrent que, les statistiques officielles montrent que le décile de revenus le plus faible, les 10% qui ont les revenus les plus faibles, ont vu leurs revenus augmenter plus vite que celui de toutes les autres catégories, de tous les autres déciles, y compris celui des 10% les plus riches.
Et ça, c'est à cause du SMIC, non ?
Notamment parce qu'il y a eu une très forte revalorisation du SMIC dans les 10 dernières années. Et donc, les plus forts mouvements se font à l'intérieur du décile supérieur. Et en réalité, ceux qui s'appauvrissent, ce n'est pas les 10% qui ont les revenus les plus faibles, c'est à l'intérieur des 10% les plus riches. Vous avez les 9% inférieurs dans les 10% les plus riches qui ont vu leurs revenus augmenter très faiblement. Et c'est le 1% supérieur qui a raflé la mise au niveau national et même, on pourrait dire, le 1 pour 1000 supérieur. Alors, les gens disent généralement, comme quand on a cette histoire de partage du profit avec la masse salariale, enfin, ils disent ben, il n'y a qu'à donner plus aux salariés et moins en profit. Mais on vient de voir que la part des profits n'a pas bougé, donc ce n'est pas là où il faut bouger. Si on pense réellement qu'il y a un problème de répartition des revenus en France, il faut utiliser un outil qui a toujours été à notre disposition depuis 1914, c'est l'impôt sur le revenu. Si on pense que le 1 pour 1000, le top 1 pour 1000 ou le top 1% a capté une part trop importante de la création de richesse, il n'y a qu'à créer une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu. Mais ce n'est pas en intervenant dans la répartition de la valeur ajoutée des entreprises qu'il faut trouver une solution.
Mais on voit bien 2 choses. La première, c'est que la première des réponses, c'est la croissance. Parce qu'avec la croissance, on règle beaucoup des problèmes. Et la seconde, mais on laisse.
D'ailleurs, je me permets d'insister pour dire à quel point ce que vous venez de dire est juste. C'est-à-dire que c'est parce qu'il n'y a pas de croissance depuis 10 ans en France que les gens s'énervent comme ça sur la répartition des revenus. C'est parce qu'en réalité, le gâteau n'augmente plus. Et comme le gâteau n'augmente plus, on veut piquer la part du voisin.
Absolument, absolument. Et le deuxième point, mais là, on laissera cette réflexion à nos auditeurs, c'est que vous disiez tout à l'heure que la classe moyenne a le plus pâti, en quelque sorte. Mais vous aviez précisé, et j'avais beaucoup aimé ce point, que par contre, au niveau du monde, la classe moyenne est passée en gros de 300 millions, si mes souvenirs sont bons, à 800 millions. Voilà. Donc on est bien dans une société, le capitalisme, qui par moments a des ratés, mais qui de toute façon a fait grandir la richesse moyenne et en particulier celle des revenus moyens extrêmement fortement au cours de la dernière décennie.
Si vous prenez les rapports de la Banque mondiale ou les rapports de la Banque asiatique ou les rapports de la Banque africaine, tous les rapports disent que le seul moment dans les 200 dernières années où il y a eu une vraie émancipation des classes moyennes, une vraie montée du pouvoir d'achat en Asie, au Brésil, dans certains pays d'Afrique, c'est grâce à l'arrivée du capitalisme dans ces pays-là. Et la Banque mondiale a très clairement montré qu'avant la crise actuelle, la montée du capitalisme dans les pays émergents a réduit la masse des pauvres de plus de 1 milliard de personnes. Alors, la crise actuelle va peut-être faire retomber 50 à 60 millions de personnes dans la pauvreté. Donc, il est absolument urgent de sortir de cette crise, probablement en accélérant la croissance verte. Mais c'est le capitalisme qui a sorti 1 milliard de personnes de la pauvreté.
Bien, alors on terminera sur cette note d'optimisme. Rien n'est perdu, la fin de l'euro n'est absolument pas sûre. Je vous invite, après vous avoir remercié, cher Christian Saint-Étienne, j'invite nos auditeurs à se procurer l'ouvrage qu'il vient de faire paraître aux éditions Bourin, La fin de l'euro. Merci encore, on vous y retrouvera avec grand plaisir sur cette antenne.
Merci beaucoup.
Merci à vous.